Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Madeleine, bonjour.
Bonjour.
Zora.
Bonjour.
Bonjour. Et Denis, bonjour. Tous trois, vous faites partie de l'association Raja Tifka qui est située à Lyon. Raja Tifka signifie donc espoir en arabe et en hébreu, ce qui signifie aussi cette jonction entre ces deux cultures au sein de votre association, et vous en expliquerez aussi ce motif, cette motivation. Et d'ailleurs, on peut parler de cette association qui a débuté en quelle année ?
L'association a débuté en 2002 à Lyon, lors de l'élection présidentielle où Chirac était opposé à Le Pen. Et il nous a semblé intéressant, à ce moment-là, de lancer une association qui, à la fois, attirait l'attention sur les dangers de l'extrême droite et qu'elle faisait subir, et de dangers d'une extrême droite qui était à la fois contre l'islam, islamophobe et antisémite. Et en même temps, ce qui nous paraissait aussi intéressant, c'était de favoriser les liens entre les Arabes et les Juifs, ce qui ne va pas de soi, et ce qui aujourd'hui non plus ne va pas de soi, mais qui nous paraît très important. Voilà.
Alors je rappelle, hein, cette association a des statuts avec 3 règles principales. Je vais les énumérer, à moins que vous le fassiez. D'accord. Donc la volonté de soutenir les efforts en faveur d'une paix juste et durable entre les différents protagonistes du conflit du Proche-Orient et du conflit israélo-palestinien. La deuxième, c'est la condamnation du racisme et de l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent et quelles qu'en soient les victimes. Et troisième, le refus des replis identitaires et communautaristes. On va peut-être développer illustrer ces 3 règles dans l'application que vous en faites dans votre association. Pour cela, vous avez expliqué pourquoi cette organisation, et donc vous avez énoncé ces 3 principes. Pour vous, est-ce que vous pouvez peut-être développer et alors, démontrer aussi leur importance?
Disons que notre association milite à la fois pour la paix, et à des dimensions à la fois de recherche et de travail, et des dimensions culturelles aussi, culturelles et festives. Donc nous avons organisé des cycles de conférences, nous avons organisé notamment tout un séminaire autour des relations entre juifs et musulmans du livre de Benjamin Stora et Abdel Awad Medeb, malheureusement décédé, où on a fait toute une série de conférences autour de ça. Mais nous avons organisé aussi des concerts, des initiatives festives. Je ne sais pas, vous peut-être donner quelques éléments, Madeleine et Zora.
Oui, parce que en fait, pourquoi on a eu cette une énorme intention culturelle, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance entre ces deux cultures, et il nous a paru important de les faire se découvrir et de faire comprendre à nous-mêmes et aux autres que les musulmans et les juifs ont été très longtemps dans une compréhension possible. Maintenant, la colonisation, bien sûr, n'a pas arrangé les choses pour ce qui est du Maghreb. Et comme la plupart des musulmans de France viennent du Maghreb, il reste là grosse responsabilité de notre colonisation quant à la difficulté des relations actuelles. Donc, il y a eu cet effort culturel de fait, on le fait toujours, et il y a eu aussi, on a voulu aussi que ce soit festif, c'est-à-dire qu'on a organisé des concerts de musique arabo-andalouse, et en même temps, le même soir, concert de musique klezmer. la musique klezmer étant la musique des Yiddish, la musique de l'Europe de l'Est juive. Et on a même eu des concerts où les deux orchestres avaient prévu à la fin une création ensemble. Et ces concerts ont eu beaucoup de succès. Bien sûr, il y a eu le Covid qui a arrêté tout ça, mais on a repris depuis et ça commence à redevenir intéressant.
Votre association a combien d'adhérents et peut-être aussi d'acteurs qui agissent en son sein?
Entre 30 et 40, une pas plus. Hein.
Voilà.
Adhérents, cotisants. Maintenant, il y a une tache d'huile.
Nous envoyons nos informations à 200 personnes à peu près. Quoi. Voilà, c'est pas...
Donc, vous proposez des rencontres, hein, j'imagine, sur cette thématique, exclusivement liée à la colonisation, ou alors il y a aussi d'autres aspects de ces deux cultures que vous voulez partager?
Moi, par exemple, je ne suis pas ancienne à Raja Tikva, mais j'ai appris par une voisine qui me dit « Tu ne voudrais pas venir à une conférence sur les juifs et musulmans ?» Les juifs et les musulmans peuvent s'entendre ou les juifs et les musulmans peuvent parler ensemble. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, ça se passe au TNP à Villeurbanne. Et je lui dis, mais qui organise ça? Elle me dit, écoute, une association, c'est mon amie. Je lui dis, oui, je veux bien parce que ça m'intéresse et il y a des points qui me restent un peu, que je n'ai pas compris. Oui, j'y vais. Donc, je suis allée à cette conférence. Et ça m'a ouvert beaucoup de... Ça m'a éclairci beaucoup de choses, des questionnements sur sur des questions que je me posais et que je n'ai pas eu de réponse. D'autant que Villeurbanne, on a beaucoup... C'est une ville où il y a beaucoup de je ne sais pas comment on dit, de l'origine juive, des personnes, des quartiers entiers de juifs, quoi. Et musulmans, bien sûr. Il y a des questions que je me posais et je n'avais pas les réponses. Donc, je suis allée à la conférence et puis il y a eu un débat extraordinaire après qui m'a éclairci beaucoup de choses. Et depuis, j'ai adhéré à l'association Raja Tikva. Et tout à l'heure, on parlait du repli sur soi-même. Depuis, je parle, je n'ai pas peur de parler aux gens en leur disant « Oui, il faut se parler, il faut entre juifs, musulmans, chrétiens, enfin tout ». Et voilà, je voulais souligner cette... et depuis, on fait beaucoup de choses, d'activités qui sont très très bien, dont l'exposition qui est très très bien.
Zora, cette rencontre avec donc, l'association Raja Tikva, pour vous, ça vous semblait extraordinaire, impensable même?
Oui.
Et quel était le contexte de cette réflexion pour vous, justement, d'ignorer...
Parce que j'avais jamais été... J'ai des amis juifs, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire des conférences sur... parce que je n'ai pas été invitée, il y a ça aussi. Mais je ne sais pas si j'aurais été invitée, si je serais allée. Là, c'est une voisine, amie, qui m'a dit, viens et tu verras. Et du coup, ça a enclenché et ça m'a fait voir autre chose. D'autant que les membres de l'association Raja Tikva, il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a tous les niveaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je suis le niveau... et j'ai rencontré tous les niveaux, des professeurs, voilà. Et ça m'a permis de dire, oui, tu peux y aller. Tu n'es pas inférieur. Tu peux y aller, tu peux écouter, tu peux comprendre. Et voilà Raja Tikva.
Denis, vous en êtes un des fondateurs de cette association?
Madeleine et moi, nous étions à l'origine de l'association avec notre ami, qui fait toujours partie de l'association, Chérif Ferjani, qui est professeur honoraire maintenant à l'Université de Lyon et qui est un des fondateurs de l'association. L'association a fonctionné, disons, entre 2002, 2006, 2007. Il y a eu une période de latence. On s'est arrêté. Et en 2014, on a décidé de reprendre. Et depuis 2014, on n'a pas arrêté. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, en continu, depuis 2014, on a décidé de reprendre cette association. Et je dirais que dans la période actuelle, dans cette période qu'on traverse, qui est avec tous les conflits qu'on connaît, cette association, c'est un peu un ovni. C'est quelque chose d'inattendu. Et tant qu'on peut maintenir cette association, nous, on essaiera de la maintenir. Et c'est vrai que la montée des périls et antisémites et islamophobes est énorme dans la société française aujourd'hui et n'arrête pas. Par répercussion, mais pas seulement du conflit au Moyen-Orient, pas seulement par répercussion. Et donc, l'idée, c'est de combattre ça en faisant vivre autre chose. Voilà.
Pour vous, Madeleine et Denis, quelle a été cette envie de créer cette association et qu'est-ce que, pour vous, ça permettait de produire?
Cette envie de créer cette association est venue très fortement un 1er mai après une énorme manifestation.
Du premier tour, hein, des élections.
Et on s'est dit, vraiment, c'est pas possible. Dans l'électorat Front National, il y avait des gens, des juifs, qui votaient contre les musulmans. Et il y avait des musulmans qui votaient contre les juifs, étant donné la position de ce parti. Et quand on s'est dit, non, il faut faire quelque chose, et on a décidé de faire cette association. Et tout de suite, le premier travail qui a été fait, c'était un travail qu'on avait fait avec les centres sociaux du Rhône, qui nous avaient ouvert leurs portes dans différents centres sociaux. Et on avait pris deux conférenciers pour chaque conférence, un arabe et un juif. On avait la chance dans cette association d'avoir quelques universitaires. Et les conférences ont été faites sur le Moyen-Orient, sur la vie que les juifs et les musulmans ont pu avoir à une certaine époque de l'histoire. Mais vraiment, je n'ai plus ça dans l'esprit, mais des choses très précises. Denis, si tu t'en souviens.
Je n'étais pas trop sur les centres sociaux à l'époque.
Ah. Et donc, bon, ça a commencé comme ça. Puis, ensuite, on a fait des conférences qui ont eu lieu au TNP, qui nous prêtait à ce moment-là une petite salle.
Alors, on peut peut-être rappeler juste le TNP, ce que ça
Théâtre
signifie.
Théâtre National Populaire à Villeurbanne.
Voilà, de Jean Villard, hein, c'est
oui,
ça.
Nous étions sur, car notre association est fixée sur Villeurbanne. Et la mairie de Villeurbanne nous subventionne d'ailleurs. On doit estimer qu'on fait un travail intéressant quant à ces deux communautés. Et dès le départ, on a vraiment eu le souci de lutter contre le communautarisme de chaque communauté. Bon, ces conférences ont eu lieu, notamment on a beaucoup parlé quand même à un moment donné du conflit au Moyen-Orient, de la Palestine. On a parlé aussi du sionisme. Et tout ceci pouvait se faire parce que dans notre association, c'était une association d'amitié arabo-juive. Et quand je dis le mot amitié, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est vrai. C'est pas du pipeau. Et quand, entre amis, on peut dire certaines choses parce qu'on sait qu'on est respecté en tant qu'amis et qu'on ne va pas être jugé parce que juif, parce que musulman, parce que... Non. Mais en tant que tel. Et qu'on a son expression. Et chacun essaie de respecter l'expression de l'autre, même si quelquefois elle peut être blessante. On a vu dernièrement, après le 7 octobre, des amis juifs qui ont été très, très choqués par la réaction soit d'autres juifs, soit de musulmans, soit de laïcs tout simplement, qui ne se laissaient pas autant emporter par l'émotion et qui avaient peut-être quelquefois une analyse plus rigoureuse, mais ils ne le supportaient pas. Donc, l'amitié permet de ce respect. C'est tout ce que j'ai à dire.
Alors, moi, ce que je voudrais dire pour répondre aussi à cette question, c'était à la fois une amitié entre nous, c'est-à-dire qu'on fait vivre dans l'association, on essaye de faire vivre dans l'association cette amitié qu'on prône pour l'extérieur. Elle est composée de personnes qui se disent juives, de personnes qui se disent arabes et de personnes qui se disent ni juifs ni arabes. Il n'y a pas de carte d'entrée pour ça. Donc elle est composée de ceux qui sont intéressés à cette amitié. Donc ça, c'est une amitié entre nous et dirigée vers l'extérieur au travers à la fois de conférences, on a fait toute une série de conférences, et d'initiatives de type concerts qui mêlaient la musique arabo-andalouse et la musique klezmer, et où on a pu, ça a été dit tout à l'heure par Madeleine par exemple, faire se rencontrer un orchestre de musique klezmer et un orchestre de musique arabo-andalouse qui ont répété et qui ont finalement joué une partition ensemble à la fin du concert. Ils ont fait leur propre concert et ils ont joué une partition. Donc ce sont ces éléments-là. Alors dire que c'est facile aujourd'hui, non. Non, ce n'est pas facile.
Ça s'est compliqué un peu dans votre organisation suite à ce conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre.
On en a forcément les répercussions.
Mais cette amitié n'a pas été égratignée.
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais au nom de cette amitié, on ne va pas toujours aussi loin qu'on voudrait aller. Je pense à l'analyse du conflit, c'est vrai que on fait attention. Voilà.
D'ailleurs, ça nécessite pour vous d'avoir un certain recul, de ne pas se soumettre à l'émotion et donc de vous informer au mieux aussi de ce qui se passe. Et pour cela, ces rencontres, vous les établissez assez régulièrement entre vous au sein de vos associations pour peut-être vous mettre au diapason en quelque sorte.
Nous nous réunissons mensuellement.
Officiellement.
Mensuellement, et en fait plus.
Oui.
En fait plus. Mais mensuellement, on a des réunions de l'association ouvertes aussi à ceux qui ne sont pas adhérents, qui sont invités à l'association. Voilà.
Je reviens un peu sur le but aussi de votre passage ici, c'est cette exposition que vous proposez, cette exposition qui est initiée par le Musée de l'immigration de Paris et qui s'intitule « Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours ». C'est constitué en quelque sorte de panneaux qui vont être exposés au cinéma Le Pestel. Et vous êtes ici pour nous la présenter. Est-ce que pour vous aussi, cette colonisation de la France a amené beaucoup de dégâts aussi dans vos cultures? Et je ne sais pas si la question est un peu large, mais en quelque sorte, qu'est-ce que ça a amené comme désagrément, ce colonialisme, dans le Maghreb, qui vivait en paix à ce moment-là? Alors, on peut peut-être rappeler la période. Hein. Je crois que ça a commencé avec la colonisation française en 1830, dans le Maghreb, jusqu'à la guerre d'Algérie.
Ce que l'exposition, je crois, met en avant, on voit les différents panneaux, elle a eu lieu au Musée national d'immigration et elle était tout à fait intéressante, c'est que, en fait, il y a eu coexistence et travail en commun des communautés juives et musulmanes dans le Maghreb. Ça existait. La colonisation en elle-même a introduit beaucoup de choses. On insiste notamment, nous, sur l'affaire... pas seulement nous, mais dans la question algérienne, sur le décret Crémieux, qui a été pris en 1870, lequel décret Crémieux a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie dans la suite du mouvement général d'émancipation des Juifs en France même, issu de la Révolution française, mais a eu pour conséquence la coupure, qui n'a d'ailleurs pas été aussi profonde que ça, mais la coupure entre les Juifs ayant de droit la nationalité française et les musulmans, la majorité de la population, régie par le code de l'indigénat. Donc là, on peut dire que c'est quelque chose de créé par la colonisation, bien évidemment. Et il y a eu donc cet aspect-là des choses qui étaient tout à fait important. Et il faudrait aussi remonter à toute cette situation qui est un peu née à ce moment-là et qui est née bien avant même qu'il soit question en France ou ailleurs en Europe du mouvement d'aller vers la Palestine ou d'aller vers la Palestine. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose de la colonisation. Voilà. Notre exposition également, le souligner également, notre exposition, et là, elle a subi aussi les dégâts de l'actualité. C'est-à-dire que nous avions prévu de présenter cette exposition dans le cadre d'un programme assez ambitieux l'an dernier, à Lyon même, et ça devait commencer, je crois, le 10 ou le 12 octobre. Ça a été impossible. Ça a été impossible. On n'a pas pu tenir cette exposition. On l'a quand même présentée.
Elle a été repoussée ou annulée sous quelle pression d'opinion ou alors est-ce qu'il y a
non des... c'était enfin les institutions qui là il se trouvait que c'était la bibliothèque du premier arrondissement, mais en lien aussi avec la municipalité ne se sentait pas et on comprenait qu'elle ne se sentait pas. C'est-à-dire que dans le climat d'immédiate après le 9 octobre, le 7 octobre, ne se sentait pas d'organiser une telle chose. Et de fait, on a eu un temps où nous, on s'est plus replié sur notre activité interne, enfin sur ça. Mais cette exposition, on pense qu'elle est intéressante. Donc on l'a quand même présentée en décembre à l'École nationale de musique de Villeurbanne. Pas dans les meilleures conditions, mais on l'a présenté, mais c'était la situation posée. Et là, on reprend cette présentation aujourd'hui à 10, et on la reprendra à Lyon, dans le premier arrondissement, où on l'avait prévu de le faire, mais courant janvier. Quoi. On laisse passer notamment l'anniversaire d'octobre, qui va de toute façon remuer la conscience. Donc on a été... Voilà. Et cette exposition, je trouve qu'elle est intéressante. Vous irez sûrement... Nos amis de Dix ou auditeurs iront sûrement la voir, mais je pense qu'elle est intéressante.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7,
FM.
Je reviens un peu aussi, puisque il est dans ce propos, ce conflit israélo-palestinien qui a eu un coup d'accélération ce 7 octobre, justement. Mais on sentait bien que c'était une situation qui perdurait depuis de nombreuses années, avec notamment cette montée de la droite et l'extrême droite en Israël, par exemple, et aussi peut-être cette surdité des pouvoirs palestiniens face à une population qui vit quand même dans le désagrément, dans le dénuement même. Est-ce que pour vous c'est important de mettre aussi cette évidence que les dirigeants parfois mènent un peuple à la catastrophe?
Oui, enfin, pour nous c'est très important. C'est très important de reconnaître que ce 7 octobre, il n'est pas tombé du ciel. Évidemment. La colonisation, les colonies qui s'installent en Cisjordanie, avec aucun espoir pour la Cisjordanie de trouver une solution autre que de subir cette situation coloniale. Et quand ce 7 octobre est arrivé, en dehors du fait que ce crime est épouvantable, et pas parce qu'il est sur des juifs ou parce que c'est un acte terroriste odieux qui consiste à tuer des gens innocents, mais Ceci étant, quand même, certains parmi nous, et je crois que tous même, sont arrivés à l'analyse suivante, c'est que, ben oui, que la décolonisation, elle commence toujours par du terrorisme. On l'a vu en Algérie, ce fameux 1er novembre 54, ça a été une horreur. Bon. Alors ça ne console pas nos amis juifs, c'est vrai. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Et on en a parlé ensemble, bien sûr. Certains n'ont pas supporté cette analyse. Hein. Mais on en est tout de même tous arrivés à ce point. Maintenant, ce qui nous catastrophe, c'est que les Palestiniens sont projetés dans les bras du Hamas. Ça, c'est une autre affaire. Denis.
Ouais. Je dirais en tant que tel, Raja Tikva a pris position générale. Enfin, on a fait un appel pour la paix en général. Mais on n'a pas, on n'entre pas dans tous les aspects du conflit parce qu'on n'est pas, on se situe pas sur le terrain politique strictement, quoi. On partage l'idée qu'il faut un État palestinien, qu'il faut une décolonisation, qu'il faudrait qu'en Israël, ça aille mieux et que ce ne soient pas les gens d'extrême droite qui dirigent le pays. Ces idées-là, qui sont un peu des idées communes, sont un peu partagées, mais ne sont pas celles-là. Par contre, ce que je voudrais insister sur un point, c'est que nous ne nous contentons pas de commenter l'actualité et Palestine-Israël. Nous avons eu, en 2017... Nous recommencerons cette année à avoir des liens avec plusieurs associations palestino-israéliennes, et notamment une toute petite qui s'appelle Windows for Peace, fenêtre pour la paix, qui comporte à la fois des Israéliens, qui comporte des citoyens palestiniens d'Israël ou arabes israéliens, et des Palestiniens, et qui s'occupe de formation. Et notamment, notre projet est de les faire venir à Lyon et de leur faire rencontrer un certain nombre de gens. Donc on essaie, avec nos faibles moyens, celles d'une petite association, d'aider les associations qui, disons, même si elles n'ont pas un écho énorme, sont, à notre avis, porteuses d'avenir sur le terrain même en Israël-Palestine. Voilà.
Ah, et pour ce qui est de la guerre immédiate, nous participons à un collectif d'associations Une heure pour Gaza, qui fait tous les jours Place de la Comédie à Lyon. Place de la Comédie, c'est entre l'Opéra et l'Hôtel de Ville. On tient des banderoles, manifestation silencieuse, sur laquelle il y a simplement écrit « Gaza, aide humanitaire » et « Gaza, cessez le feu ». Bon, on s'est réunis, nous sommes 5 associations participer à ça. On s'est réunis dernièrement pour changer un peu les banderoles parce que la Cisjordanie étant maintenant concernée, on va donc aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que, je dirais entre guillemets, on n'a pas peur de prendre une position, même si quelquefois dans ces manifestations silencieuses, on a beaucoup de sympathie, mais on a quelquefois des gens qui nous engueulent aussi.
Je reviens un peu aussi à l'image de ce qui se passe en Israël. Il y a aussi une partie de la population qui est contre ce conflit, peut-être aussi contre ce gouvernement qui dirige leur pays, avec des manifestations durement réprimées. Est-ce que vous avez des échanges aussi avec ces personnes ?
Oui, bien sûr. Enfin, nous, on accorde une très grande importance parce que la solution, elle ne passe pas par la victoire du Hamas ou la victoire de l'extrême droite israélienne. Elle passe aussi par une transformation de la société israélienne elle-même dans cette affaire-là. Et c'est vrai que celles et ceux qui manifestent, qui n'ont pas toujours d'ailleurs une claire conscience et une solidarité avec les Palestiniens, mais qui manifestent ça, sont, à mon avis, porteurs d'avenir pour la société israélienne elle-même. Voilà.
Et pareil pour le peuple palestinien.
Bien sûr.
Zora, vous-même, en étant impliquée dans cette association, en quoi vous agissez ?
Ben déjà, au sein de Raja Tikva, je participe aux initiatives, aux activités, aux projets portés par l'association que Denis a dit. Et c'est très, très intéressant. Et puis, d'autre part, donc, dans la famille, ben, j'en parle à mes petits-enfants parce que tout le monde se pose la question. Et la grosse question est de dire « Ah, mais on ne parle pas des 30 000 morts, mais on ne parle que des 1 700 morts. » Mes petits-enfants. Donc, moi, en étant dans ces associations, j'ai l'esprit... c'est pas que je comprends. Je ne comprendrai jamais. On ne comprendra jamais. Mais ça me permet... Enfin, moi, ça m'a permis, après le 7 octobre, le fait de nous retrouver à Raja Tikva, de réaliser, de m'apaiser, de dire, il est arrivé ça. Donc, fais bien attention. Tu as des amis juifs, tu as la famille et des amis musulmans. Donc, prends la position, oui, c'est arrivé. Maintenant, il faut se parler... Il faut se rencontrer, comme dit Madeleine, garder surtout l'amitié, parce que c'est ça qui va nous faire, qui va nous aider à continuer. Et puis, quand je rencontre mes amis juifs, et ben on en parle. Alors qu'au début, tout de suite après, c'était le repli, chacun, on n'en parle pas, on ne dit rien du tout. Voilà.
Il y a aussi les générations. Vous êtes... d'un âge assez avancé, hein. Vos enfants ou petits-enfants, est-ce qu'il y a ce dialogue aussi et peut-être de désir d'échanger, de s'informer, de comprendre ce qui se passe ?
D'abord, pour donner un exemple tout à fait précis et concret d'ici, Karen Laitier du Centre Pestel qui a organisé l'exposition et la fille d'une de nos amies de Raja Tikva, Francine Kahn. Donc, d'une certaine façon, nos enfants poursuivent, enfin, les miens également, sont partie prenante de ces associations. Par contre, c'est vrai, mais ça, c'est le préport de tout militant, le fait que nous soyons une association qui, entre guillemets, vieillit ensemble, fait que les jeunes ne rejoignent pas directement notre association, mais ce n'est pas le caractère spécifique de notre association. C'est un caractère assez général. Mais moi, je pense que ce qu'on a... Enfin, on a les éléments. Zora, ton fils également, qui est cinéaste, on a passé des films, etc. Et tout. Donc, on s'aperçoit, ne serait-ce que par nos familles respectives, que les idées que nous portons sont mises en avant. Enfin, avec Walid, on a présenté les films qu'il a fait sur le...
Terre d'exil, les bidonvilles de Villeurbanne, le Chabat.
La Gonne du Chabat, voilà, qui était les bidonvilles. Donc on est en lien sous cette forme-là. Par contre, c'est vrai que sauf quelques rares exceptions, nous n'oserions prétendre que nous sommes de la première jeunesse. Quoi. On ne croirait pas.
Voilà. Et puis, la jeunesse aussi, peut-être, se lance dans leur propre association, dans leur propre groupe aussi. Et peut-être qu'ils vous demandent conseil.
Ils répercutent sûrement les discussions que l'on a dans leurs propres associations, qui n'ont pas... des titres particuliers, enfin. Mais je pense que c'est répercuté.
Je reviens vers vous, Zora, par rapport à ce contexte actuel. On peut noter aussi qu'en France, il y a une montée de l'extrémisme. Enfin, on peut du moins nous le faire croire. En quelque sorte, est-ce que pour vous, il y a des sources d'inquiétude pour l'avenir? Et dans ce cas-là, est-ce que vous vous êtes missionné, vous-même Zora, et peut-être aussi Denis et Madeleine, sur ce dialogue avec les personnes qui vous entourent, pour les éclairer aussi?
Alors on parle, bien sûr, la situation est très inquiétante. Hein. On parle avec les voisins, les enfants. Il n'y a pas un jour où on n'emploie pas le mot « on est inquiet ». Qu'est-ce qu'on va devenir et où on va? Mes petits-enfants, par rapport à leurs études, mes enfants, par rapport à leur travail et leur vie quotidienne, sont très inquiets. Mais le fait d'en parler, mais on est, moi je vais dire le mot, on se trouve impuissant. On est tous là à dire, il se passe, c'est inquiétant ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on fait ? Heureusement qu'il y a encore jusqu'à c'est la démocratie qu'on appelle les élections, mais qui je ne sais pas si elle reste démocratie, après ce qu'on est en train de voir. Mais voilà, oui, il y a une inquiétude de tous âges et de tout niveau social, et aussi bien arabe, juif, j'ai mes amis juifs, à musulmans. Franchement, on est tous sur la même échelle d'inquiétude.
De toute culture, hein, même. Voilà. Votre présence, Adi, est donc en relation avec cette exposition qui commence ce soir, hein, jeudi 19. Alors, pour les auditeurs, je pense que cette émission passera plutôt demain, donc avec une journée de retard. Mais est-ce qu'il y a possibilité de vous rencontrer lors de votre passage, Adi ? Est-ce que vous donnerez d'autres rendez-vous que cette soirée ? Ou est-ce qu'il y a moyen de vous joindre, ne serait-ce que par le Pestel Café ?
Je pense qu'effectivement, ce sera par le Pestel Café qu'il faudra nous joindre, mais on a disponible, évidemment, pour d'autres rencontres. Là, la rencontre, nous serons bien sûr présents ce soir, puisque nous ferons une lecture poétique de poésie arabe, juive, judéo-espagnole, juive, yiddish et hébreu. Donc il y a différents thèmes qui seront présentés dans notre lecture. Mais après, je pense que par le biais du Pestel Café, ce sera possible. Enfin, s'il y a des souhaits d'auditeurs ou d'amis de Di, ce sera possible d'organiser des choses. Je pense.
On y sera demain.
Voilà.
Vous ne serez pas au marché samedi matin, Adi ? Il est assez incontournable, ce marché, hein, mais peut-être que vous êtes pris par le temps.
Vous restez demain, donc moi, je reste.
On reste demain, samedi matin, oui, peut-être, oui.
Voilà, c'était au cas où des personnes avaient envie de vous contacter, hein, au-delà de cette soirée, qui sera d'ailleurs finalisée par un concert du groupe Fazaz. Voilà, on avait présenté avec Karen en début de semaine ou la semaine dernière cette soirée, donc avec un extrait musical de ce groupe. Pour vous joindre, l'association Raja Tikva, il y a une adresse internet, c'est www.raja-tikva, alors tikva.fr. Je mettrai l'adresse sur la page de l'émission, sur notre site.
L'adresse, c'est plutôt c'est l'adresse mail qui est en dessous.
Il y a l'adresse mail. Là, j'ai donné l'adresse du site, hein. Mais on trouvera l'adresse de mail sur le site aussi, non ?
Ah non, plus intéressant de donner directement l'adresse mail.
Alors, je vous l'indique.
Il n'y a pas de problème.
Oui, Raja Tikva 69, tout attaché, @gmail.com. Je mettrai aussi le lien sur la page de l'émission. Est-ce que vous auriez eu envie de dire quelque chose en plus ?
Si, moi, juste quelque chose sur l'association elle-même. On veut, dans la vie de l'association, traduire ça, et y compris l'animation de l'association. On a essayé toujours d'avoir une représentation à la fois de cette amitié arabo-juive. Donc on a toujours fonctionné avec une coprésidence arabo-juive de préférence, enfin voilà. Et donc là, actuellement, il y a Zora Chaïb qui est ici, qui est coprésidente de notre association. Et il y a également Eliane Benbanast, qui n'est pas là aujourd'hui, enfin qui prépare l'exposition et qui sera là ce soir, qui est coprésidente de l'association. Donc ce système de deux coprésidences marque aussi cette volonté. Voilà.
Et pour cette teneur en soirée, vous proposez donc des lectures avec des auteurs de divers pays, de cultures. Est-ce que ce sont des auteurs de nos jours ou alors anciens ?
Il y a des auteurs anciens. Il y a Ben Abd Rabi de Cordoue du 9e siècle, Mohamed Ben Ghalib al-Roussafi du 12e siècle. Il y a des auteurs récents et actuels. Il y a Mahmoud Darwish, un immense poète dont on dit une des poésies. Il y a aussi, bien sûr, Adonis, qui est un Syrien. Abdelatif Labi, on a Taha Bekri, qui est un poète tunisien, avec ses différents poésies. Taha Bekri, Assia Djebar, qui est une écrivaine et poétesse algérienne. Nous avons également Clarisse Abinoumnik Kolitsky, qui est né à Lyon en 1938, qui se ça, et on a aussi les auteurs yiddish comme Isaac Lebouch Peretz, qui est né en 1852 et mort en 1915 et qui a écrit un certain nombre de poèmes yiddish. D'autres poèmes yiddish, il y a Tzicho Landau, Rachel Korn, qui sont présents, et on termine par un poème de Refat Alarer. S'il est écrit que je dois mourir, c'est un poète Gazaoui qui est mort après avoir écrit ce poème en décembre dernier. Donc, nous terminerons cette présentation par ce poème-là. Voilà.
Denis, Madeleine et Zora, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné un peu de temps sur Air d'Ivoire pour nous parler donc de cette soirée au cinéma Pestel avec donc Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours.
Merci
à vous d'avoir reçu.
Merci.
Au revoir. Pour finir cette émission, vous nous proposeriez une petite écoute ou une petite lecture d'un de vos textes.
Refat Alarer, dont je dis qu'il a été victime d'un bombardement à Gaza. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire.
Il est écrit quelque part que je dois mourir. Il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître de cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent, une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète.
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre.
Il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort devienne une histoire.
Que ma mort devienne une histoire.